Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, où je suis très heureux de vous retrouver, fidèle au rendez-vous de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Après la parenthèse des émissions consacrées à Robert Schumann et à notre cycle Mozart, cycle que nous poursuivrons d'ailleurs la semaine prochaine, retour enfin à l'actualité, puisqu'il en a une à venir, avec le concert donné par l'Orchestre National du Capitole vendredi 23 avril à la Halle aux Grains, retransmis en direct à 20h sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Nous allons vous présenter le programme de cette soirée, mais avant cela, nous allons revenir sur les Franco-Russes qui ont eu lieu à Toulouse entre le 13 mars et le 1er avril. Une troisième édition, elle aussi sans public hélas, mais dont les différents événements ont été diffusés sur les réseaux sociaux ou sur Medici TV et France Musique. Il y a eu quelques très beaux concerts sur lesquels nous allons donc revenir avec le plus fidèle des chroniqueurs de cette émission, mon ami Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur musical pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons beaucoup de choses à dire sur cette troisième édition, alors sans plus attendre, retour arrière sur les concerts des Franco-Russes 2021.
Mélomanie, retour arrière.
Bonjour et bienvenue à vous aussi Serge, on ne s'était pas vu depuis quelques temps. Hein. Ça
en
fait
effet,
plaisir
en effet,
de se retrouver dans ce studio pour parler avec vous de ces troisièmes Franco-Russes, puisque c'est comme ça que ce festival s'appelle désormais. Ce ne sont plus les musicales Franco-Russes, ce sont les Franco-Russes. C'est toujours la musique qui domine dans la programmation, mais petit à petit, cinéma, littérature et d'autres disciplines artistiques s'y invitent. Nous allons pour notre part nous concentrer sur les concerts. Il y en a eu seulement 5 cette année, la programmation étant réduite en raison de la crise sanitaire. Tous ont été donnés à la Halle aux Grains et retransmis, comme je le disais tout à l'heure, en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'Orchestre National du Capitole, ou pour certains sur Medici TV et France Musique. Le premier a eu lieu le 13 mars, il était sous-titré au rythme de Prokofiev, et il a été l'occasion de découvrir un chef d'orchestre qu'on n'avait jamais vu à Toulouse. Qui est ce chef, Serge, et quelles sont les œuvres qu'il a dirigées à la tête de l'Orchestre du Capitole?
Eh bien, il s'agit de Kirill Karabits. D'ailleurs, comme il est né à Kiev, hein, qu'il est donc ukrainien, son prénom, c'est quelquefois Kirillo.
Kirillo Karabits.
Karabits, bon, je ne garantis pas la prononciation.
Moi non plus.
Mais donc, oui, alors, c'est la première fois qu'il vient diriger l'orchestre, mais il était déjà venu 2 fois à Toulouse. Il le signale dans une interview qui, d'ailleurs, figure sur le site YouTube, la chaîne YouTube de l'ONCT. Et donc, il était venu déjà en 2004 et même avant. En 1991, il était venu avec le chœur d'enfants de son école. Et donc, il était venu à Toulouse et à Muret. Et il était venu en bus, a-t-il raconté. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Toulouse et qui le retrouve avec grand plaisir. Et cette fois, à la tête de l'orchestre.
Voilà, c'était juste après la chute de l'Union soviétique, hein, début des années 90, voilà, où les Russes commençaient à circuler beaucoup plus librement qu'auparavant. Alors, ce chef a été distingué, je vais le préciser tout de même, hein, par la Royal Philharmonic Society en 2013, chef d'orchestre de l'année, s'il vous plaît. Et puis, c'est le fils d'un compositeur, le fils d'Ivan Karabits, hein, donc c'est vraiment un enfant de la balle, comme on dit. Hein.
Oui, oui, absolument. Puis, il est en même temps directeur du Bournemouth Symphony Orchestra depuis 2012, hein, donc il est titulaire de cet orchestre britannique.
Alors le programme qu'il a dirigé, donc tout Prokofiev, et on va voir que c'est un compositeur qui a été très à l'honneur des Franco-Russes cette année, Serge Prokofiev. Ouais. Première œuvre, Le lieutenant Kijé, c'est pas la plus connue hein, de Prokofiev.
Non, mais c'est une œuvre tout à fait originale, puisque c'est une suite d'orchestre que Prokofiev a tirée de sa propre musique de film, pour le film qui s'appelle également Le lieutenant Kijé, qui est un film d'Alexandre Feinsima et qui est basé sur une nouvelle de Yuri Tinyanov. Vous voyez, j'ai de la culture.
Je vois ça, ouais.
ouais, je me suis renseigné tout simplement.
Et film de 1933, hein, donc.
Voilà,
époque du cinéma muet. Hein.
Exactement. Et donc, c'est un argument très amusant puisque ça se base sur l'histoire d'un homme qui n'existe pas.
Oui.
Donc c'est un homme inventé par l'administration, c'est donc une vie fictive qui est décrite par les divers mouvements de cette musique de film et de la suite, et donc c'est plein d'esprit, c'est très amusant, c'est une musique, très belle musique, magnifiquement orchestrée, comme toujours chez Prokofiev, une musique d'image donc en quelque sorte et d'animation.
Eh bien on va écouter un premier extrait de ce concert d'ouverture des Franco-Russes 2021 avec le deuxième mouvement du lieutenant Kijé de Serge Prokofiev, la romance, telle que l'a interprété l'Orchestre National du Capitole le 13 mars à la Halle aux Grains sous la direction de Kirill Karabits. La très belle romance, deuxième mouvement du lieutenant Quijé de Serge Prokofiev, interprété par l'Orchestre National du Capitole le 13 mars à la Lograin, sous la direction de Kirill Karabits. Et Serge, vous vouliez saluer un des musiciens de l'Orchestre du Capitole,
oui,
qui s'est distingué pendant cette interprétation.
Tout à fait, puisque dans un des mouvements de la suite, il y a en coulisses un solo pianissimo du cornet à piston. Et là, le trompettiste du pupitre s'appelle Thomas Pesquet. C'est vraiment un grand musicien qui a joué ça magnifiquement. Donc, je voulais souligner son intervention.
Il y a eu ensuite une deuxième œuvre au programme, la cinquième symphonie du même Prokofiev, la dernière écrite par le compositeur soviétique. Comme je le disais, très à l'honneur lors de cette troisième édition des Franco-Russes, comme nous allons le voir avec les autres concerts dont nous allons vous parler. Alors, Serge, comment Kirill Karabits a-t-il dirigé cette cinquième de Prokofiev avec l'Orchestre du Capitole?
Eh bien, il l'a dirigé dans l'esprit de Prokofiev, qui a écrit à propos de cette œuvre: je l'ai conçue comme une symphonie sur la grandeur de l'esprit humain. Et donc, Kirill Karabits l'a dirigé avec une espèce de passion exacerbée, avec des fortissimi complètement explosifs, par moments presque douloureux, tellement c'était intense. Donc, il s'est complètement investi dans cette direction. Et alors, j'ai trouvé qu'il y avait des liens avec Shostakovich, notamment le rondo final, et qui est en fait faussement triomphant, comme très souvent dans les ambiguïtés de Shostakovich, dont on va parler à propos d'une autre cinquième symphonie, cette fois de Shostakovich, dans un concert ultérieur. Et donc, il a dirigé ça de manière tout à fait exaltée, et l'orchestre a magnifiquement joué, bien sûr. Tous les pupitres ont contribué avec conviction à une espèce de chevauchée finale qui est tout à fait explosive. Donc, difficile de résister.
Oui, oui, c'est une musique très belle que celle de Prokofiev, comme vous allez de nouveau le constater. Voici un deuxième extrait du concert du 13 mars. Le deuxième mouvement, Allegro Marcato, de la 5e symphonie de Prokofiev, interprété bien sûr par l'Orchestre National du Capitole, toujours sous la baguette de Kirill Karabits. Le deuxième mouvement, Allegro Marcato, de la 5e symphonie de Prokofiev, interprété par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Kirill Karabits lors du concert d'ouverture des 3e Franco-Russes le 13 mars à la Lograin, un concert toujours disponible sur la chaîne YouTube de l'Orchestre du Capitole. Le concert suivant a eu lieu le 19 mars et on y a retrouvé un autre chef russe qu'on commence à bien connaître à Toulouse désormais, Serge Maxime Emelianichev. Le programme de ce concert était intitulé Terre russe et il y avait aussi un soliste invité cette fois-ci.
Oui, un grand violoniste qui s'appelle Aylen Prichin, que pour ma part je n'avais jamais vu, et dont j'ai appris qu'avec Maxime, ils étaient très proches, hein. Ils avaient même habité ensemble, donc ce sont des vrais copains, et ça se sent...
Mais ils sont vraiment de la même génération.
Oui, hein. tout à fait, donc ça se sent dans leur complicité.
Dans leur relation musicale,
exactement.
Bien sûr, leur relation humaine, évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous a joué ce Hélène Prichin? C'était encore un concert où Prokofiev était à l'honneur.
Et voilà, donc il s'agissait cette fois du deuxième concerto, toujours de Prokofiev, avec un sérieux, une profondeur tout à fait impressionnante, hein, qui s'ouvre d'ailleurs sur une cadence a cappella, en quelque sorte, du violon seul, hein, avec une nostalgie, une profondeur, donc tout à fait grave et magnifique, hein, et que le violoniste a magnifiquement joué. Il possède une sonorité tout à fait splendide, hein, vraiment, un phrasé imaginatif, un soin expressif et beaucoup d'émotion. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sa maîtrise du vibrato. Vraiment, c'était très très beau. C'est vraiment un grand violoniste. Et donc, il a joué les mouvements de ce concerto de manière tout à fait convaincante et tout à fait assumée.
Violoniste encore jeune, hein, puisqu'il n'a que 34 ans, et qui a été l'élève, entre autres, hein, d'un autre violoniste dont nous allons parler dans quelques minutes, Vadim Glusman.
Eh oui. Rien que des grands, hein, donc formidable.
Voilà, on va écouter tout de suite un extrait du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev, le deuxième mouvement Andante assez, interprété par Hélène Prichin le 19 mars, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par son ami Maxime Emelianichev. Le superbe deuxième mouvement Andante assez du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev, interprété avec beaucoup de sensibilité par Hélène Prichin, accompagnée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Maxime Emelianichev. Il y avait d'autres œuvres au programme, Serge, dont la symphonie numéro 1 du même Prokofiev, qui a ouvert le concert.
Oui, la toute première qu'il considérait lui-même comme un défi pour mettre les oies en rage.
Quelle drôle d'expression.
Oui, tout à fait, mais ça c'est Prokofiev. Ouais. Donc une symphonie pleine de vitalité, de bonheur, d'humour, qui a été magnifiquement joué, magnifiquement dirigé par Maxime Emelianichev. C'est tout à fait son tempérament, hein, un tempérament d'une espèce de grâce, de légèreté, de vitalité. Il apparaît comme un chef insatiable, quoi, qui a une énergie stupéfiante.
Alors, il y avait un autre russe au programme, Tchaïkovski, son ouverture de Roméo et Juliette. C'est l'ouverture qui a terminé le concert, d'ailleurs.
Exactement, une ouverture fantaisie, d'ailleurs, de Tchaïkovski, donc sur le Roméo et Juliette de Shakespeare. Alors, c'est une sorte d'emblème du romantisme, évidemment, hein, avec un recueillement liturgique dans les premières mesures, et puis les sentiments exacerbés, et là aussi. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le chef la dirige, cette partition, avec une rigueur tout à fait éloignée de certaines lectures très sentimentales. Lui n'a pas appuyé
sur
le pathos du tout. C'était vraiment implacable, cette manière de diriger, et très convaincant.
Et puis alors, il y a eu un grand moment, un très grand moment, puisqu'il y avait une création mondiale ce soir-là, celle de 117.2.2C de Benjamin Attahir, le jeune compositeur toulousain. Alors c'est toujours un moment émouvant, encore plus pour le compositeur lui-même, bien sûr. Serge, qu'est-ce que vous avez pensé de cette œuvre ?
Il faut d'abord préciser que l'orchestre a déjà créé 4 de ses pièces. Donc ça n'est pas une brève rencontre.
Une longue complicité, une longue collaboration.
Tout à fait. C'est vraiment le compositeur actuel, le plus proche de l'orchestre. Alors, précisons aussi que le compositeur est très attaché à l'orchestre, au point qu'il a dédié cette pièce au délégué général de l'orchestre. C'est écrit sur la partition, Thierry Dargoubet. Donc, ça prouve à quel point il est attaché à l'orchestre. Donc.
Et reconnaissant, je pense aussi.
Et reconnaissant, hein, ouais. Et bien entendu, oui. Alors, c'est une partition qui est écrite pour corde seule et qui rappelle peut-être que le compositeur est aussi violoniste.
Violoniste à la base, effectivement.
Ah, oui. Et donc, cette pièce, elle est d'ailleurs accompagnée. Alors, ça fait penser à Vivaldi, pas dans le style, évidemment. Vivaldi avait accompagné chacune de ses 4 symphonies d'un poème qu'il a écrit. Eh bien, là aussi, Benjamin Attahir a écrit un poème très abstrait. Donc,
comme les titres de ses œuvres le sont en général.
Tout à fait. Oui, là, on se pose des questions. Et d'ailleurs, il ne se précipite pas pour expliquer.
Je pense qu'il veut garder le secret. Il veut intriguer. Il a raison.
Ça fait partie de son
de sa personnalité.
De sa personnalité, oui, voilà. Alors, c'est une œuvre tout à fait intéressante, avec une espèce de prédominance du rythme. Alors, c'est les rythmes les plus variés, très riches, et qui évoquent, en fait, d'étranges changements d'humeur, on a l'impression. C'est une pièce tout à fait riche et tout à fait belle, que l'on découvrait, une pièce courte, elle dure 7 minutes 30, donc c'est vraiment très court, mais dans ces 7 minutes 30, il y a une diversité de la palette expressive qui est tout à fait remarquable, vraiment.
Oui, alors pour ceux qui s'interrogeraient sur le titre 117.2C, on n'a pas d'explication.
Non.
Il se peut qu'il y ait un lien avec la Bible.
Oui, c'est ce qui se murmure.
Les versets, les psaumes, on ne sait pas trop. Bon, mais c'est souvent en lien, en tout cas, avec la mystique orientale, avec l'Orient, avec effectivement des récits bibliques chez Benjamin Attahir. Oui. Nous allons pouvoir écouter maintenant un extrait de cette œuvre 117.2.2C, créée le 19 mars dernier à la Halle au Grain par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Maxime Emelianichev. C'est le tout début. Le début de 117.2C, œuvre de Benjamin Attahir, telle qu'on a pu la découvrir le jour de sa création mondiale le 19 mars à la Halle au Grain par l'Orchestre National du Capitole dirigé par Maxime Emelianichev. Benjamin Attahir, né à Toulouse il y a maintenant 32, presque 33 ans, et qui fut, rappelons-le, le dernier élève de Pierre Boulez tout de même. Voilà donc pour ce beau concert Terre Russe, et 3 jours après, au même endroit, il y avait un concert AIDA. AIDA, c'est l'association des mécènes de l'Orchestre National du Capitole. Il y a un concert chaque année pour remercier tous ceux qui soutiennent financièrement l'orchestre. Ce concert était donné cette année dans le cadre des Franco-Russes et on a pu y entendre une formation rare, un quatuor de clarinette, les Becs du Midi. Mais les Becs du Midi, Serge, ce sont en fait quatre musiciens appartenant au pupitre de clarinette de l'Orchestre du Capitole.
Absolument, un pupitre de clarinette de très haute qualité, dont le soliste est David Minetti, que l'on connaît bien hein, à Toulouse, et qui est le roi du pianissimo. Je crois que je n'ai jamais entendu un clarinettiste avec une douceur d'émission, et il peut aussi jouer avec force, hein, mais cette douceur, c'est vraiment... Alors, ça
David
le caractérise.
Minetti, c'est un musicien dont la réputation dépasse largement, largement les frontières de Toulouse. Hein.
Largement, c'est vraiment un grand musicien. Et là, donc, il était avec trois de ses collègues, notamment avec Florian Tardy, qui joue successivement de la clarinette et de la clarinette en mi bémol, puisque chacun a joué de deux instruments au cours du concert.
Oui, parce que c'est très riche le pupitre de clarinette,
tout
attention.
À fait, hein. Tout à fait, oui, oui. David Minetti, donc, lui, jouait de la clarinette et du cor de basset. Laurence Perry et Victor Bourris, tous les deux, jouaient alternativement la clarinette et la clarinette basse. Donc, c'était un programme, alors, comme il se doit, qui alternait des pièces françaises et des pièces russes. Certaines étaient originalement écrites pour clarinette, pour quatuor de clarinette, d'autres étaient des transcriptions, évidemment.
Oui, alors les pièces originales pour clarinette, c'était plutôt des compositeurs contemporains.
Oui, voilà.
Donc, il y avait Guillaume Connaisson.
Voilà, Funk.
Funk, Thierry Esquèche.
Tango Virtuoso.
Et Jean Français.
Et Jean Français. Alors, c'est un petit quatuor. Originalement, je crois que c'est pour saxophone.
Oui, c'est pour saxophone, vous avez
c'est
raison.
C'est pour saxophone. Mais bon, ça peut très bien se transposer très facilement.
Et puis, alors, il y avait, pour les Français, il y avait Bizet. C'était oui. Carmen, je crois.
Voilà, oui, des extraits
Debussy,
de Carmen.
Debussy, La fille aux cheveux de lin.
Oui.
Chez les Russes ou assimilés, Khatchatourian, Rachmaninov, la vocalise.
Oui.
Et Tchaïkovski.
Et Tchaïkovski, oui, oui. Alors, les arrangements étaient précisés. Hein. Pour Tchaïkovski, l'arrangement est d'Alexandre Chabot, et, bon, hein. Et pour Khatchatourian, de Florent Hérault.
Voilà, et en ouverture de ce concert, les Becs du Midi ont interprété une ouverture, justement, celle de Casse-Noisette, le célèbre ballet de Tchaïkovski. Je vous propose de réécouter cette interprétation. Vous allez voir que c'était plutôt réussi. L'ouverture de Casse-Noisette, le ballet de Tchaïkovski, dans une version transcrite pour quatuor de clarinette et interprétée par les Becs du Midi, à savoir Laurence Perry, Florian Tardy, Victor Bourris et David Minetti, quatre clarinettistes de l'Orchestre National du Capitole. C'était le 22 mars lors du concert Haïda, donné dans le cadre des Franco-Russes. Le quatrième concert de cette troisième édition a eu lieu, lui, le 27 mars, avec Tougan Sokiev, le directeur musical de l'Orchestre National du Capitole, et le directeur artistique des Franco-Russes de retour à la direction de l'ensemble symphonique toulousain. Et il était manifestement très heureux d'être là, était également de la partie une autre vieille connaissance du public de la Lohengrin, je l'évoquais tout à l'heure, le violoniste israélien d'origine russe Vadim Glouzman, soliste invité ce soir-là, Serge.
Ah oui, grand violoniste, hein, très complice avec...
très apprécié des musiciens de l'orchestre, ça je le sais.
Ah, aussi, bah, comment ne pas apprécier ça. Puis jouer, c'est amusant, une partition qui a été dédiée à David Oistrakh, et il en est l'héritier par la sonorité, par le style. On sent que vraiment, il y a une continuité dans le style violonistique de David Oistrakh, on le retrouve chez Vadim Glouzman.
Donc on voit depuis des années hein, avec l'Orchestre du Capitole, presque
oui,
tous les ans.
Complètement, hein. Ils ont même un fait des enregistrements ensemble. Hein, donc c'est vraiment un duo, en quelque sorte, tout à fait idéal entre l'orchestre, le chef et le violoniste soliste.
Alors je n'ai pas précisé, mais le programme joué ce soir-là était intitulé 100% Shostakovich. On savait ce qu'on allait entendre.
Ah bah oui, et puis il faut dire que entre Shostakovich et Tougansoukiev, il y a un lien spécial, puisque Tougansoukiev veut enregistrer l'intégrale des symphonies.
Les 15 symphonies. C'est un travail de longue haleine.
À la tête de l'Orchestre du Capitole. Il a choisi l'Orchestre du Capitole pour enregistrer cette intégrale.
Ça va faire l'objet d'un DVD. Hein,
oui, en principe.
CD, un DVD.
Oui. Donc, c'est vraiment... Là, on retrouve Tougansoukiev parfaitement à l'aise dans ce répertoire. Et Vadim Gloussman, pareil. Hein, donc, qui, dès les premières mesures qu'il joue...
C'était le concerto pour violon numéro 2.
Numéro 2, oui, précisons-le. Oui. Dès les premières notes du Moderato, on est impressionné par l'ampleur sonore impressionnante, la richesse du timbre et le phrasé naturel et subtil en même temps du violoniste. Donc c'est une déclamation qui est tout à fait incantatoire dans un tissu orchestral qui est magnifiquement soutenu par Tougansoukiev, évidemment, qui se retrouve encore une fois en terrain bien connu, en terrain conquis. Il y a notamment un somptueux duo avec le cor solo qui est une pure merveille.
Alors on va l'écouter, cette musique de Shostakovich, qui est belle, qui est souvent poignante, parfois inquiétante, tragique, comme l'est le deuxième mouvement Adagio de son concerto pour violon numéro 2 que je vous propose d'écouter sous l'archet de Vadim Gloussman, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tougansoukiev. Le deuxième mouvement Adagio du concerto pour violon numéro 2 de Shostakovich, interprété par Vadim Gloussman, qu'accompagnait l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tougansoukiev, et lors de ce concert 100% Shostakovich, a aussi été donnée la 5e symphonie du grand compositeur soviétique, moment très attendu. Serge, votre avis sur ce qu'on a entendu ce soir-là?
Bon, c'est une symphonie qui est très familière à Tougansoukiev, mais une symphonie particulière quand même, hein, qui a été composée en 1937 et en pleine période des purges staliniennes, c'est dire l'angoisse collective qui était à son apogée à cette époque-là. Et alors, Shostakovich avait dû faire son autocritique à la suite de l'échec de Lady Macbeth de Mszensk, son opéra, qui avait été détesté et interdit par Staline, carrément. Et donc, il avait sous-titré cette symphonie, réponse d'un compositeur à de justes critiques. Mais évidemment, il n'en pensait pas moins. Hein. Donc, c'est une symphonie de l'ambiguïté, des sous-entendus, dramatique, incroyable. Quand on connaît ces circonstances, on l'écoute avec une oreille tout à fait différente. Hein. Il a dit lui-même, la plupart de mes symphonies sont des monuments funéraires. Faut dire que...
Quand je parlais tout à l'heure du côté tragique de son œuvre en général et de beaucoup de ses œuvres, là on est en plein dedans.
Ah oui,
il y a quelque chose effectivement de funèbre.
Et d'ailleurs, il a dédié toute sa musique aux morts de la terreur. Hein. Donc c'est une symphonie d'une intensité incroyable. Et là, je dois dire que dès l'ouverture, qui est très dramatique, les cordes sont chauffées à blanc complètement. Le moderato, le premier mouvement donc initial, il donne le vertige hein, dans cette intensité que lui confère d'ailleurs Tugan Sokiev. Hein. C'est très angoissant. Et puis il y a des solos qui associent la flûte et le cor, et puis solo de violon qui joue un rôle très important. Il faut souligner l'excellence du premier violon super soliste, Krzysztof Jessy, qui a fait des merveilles hein, dans ses passages solo. Donc c'est vraiment une œuvre formidable et qui a été jouée par l'orchestre avec une conviction, une intensité. Et d'ailleurs, ce sera enregistré. Le concert est enregistré.
Il a été enregistré et ça devrait, je pense, justement être intégré au fameux DVD de l'intégrale des symphonies de Shostakovich, a priori.
Voilà, en principe, oui. Hein. Donc ça a été un grand moment. Hein.
Il y a un mouvement très caractéristique de la musique symphonique de Shostakovich dans cette cinquième, à la fois martial, angoissant, obsédant. C'est le quatrième, le final Allegro non troppo. Voici comment l'Orchestre National du Capitole l'a interprété le 27 mars sous la baguette de Tugan Sokiev. Le quatrième mouvement, le final Allegro non troppo de la symphonie numéro 5 de Dmitri Shostakovich, interprété par l'Orchestre National du Capitole le 27 mars, alla à Logrin sous la direction de Tugan Sokiev lors de ce concert 100% Shostakovich. À la fin, il y a eu un hommage qui a été rendu à un des musiciens de l'Orchestre du Capitole parce qu'il partait à la retraite.
Oui, alors ça c'est une tradition qui s'est établie, qui apparaît chaque fois. Donc Tugan Sokiev est allé récupérer un bouquet de fleurs dans les coulisses et est venu l'apporter à François Drouin, qui est un violoniste, qui est donc dans le pupitre de violon depuis des années donc, et qui partait à la retraite. Donc c'est vraiment un hommage très intense qui est rendu par tous les musiciens et un hommage auquel je crois nous pouvons nous associer.
Oui, une belle tradition là qui s'est installée à l'orchestre. C'est bien de saluer les musiciens qui ont servi comme ça cet ensemble au fil des années, pour certains au fil des décennies même. Dernier rendez-vous de ces troisièmes franco-russes pour la clôture le 1er avril avec le pianiste Bertrand Chamaillou, l'enfant du pays, de retour dans sa ville natale où il retrouvait à cette occasion les musiciens de l'Orchestre du Capitole et Tugan Sokiev avec lesquels il a établi une relation privilégiée depuis de longues années lui aussi maintenant, et il a joué avec une œuvre d'un de ses compositeurs de prédilection, Serge.
Qui n'est pourtant ni russe ni français, qui est Franz Liszt, mais qui a beaucoup voyagé.
Beaucoup de liens avec la France quand même, Liszt.
Oui, beaucoup de liens, et même avec la Russie.
Avec l'Europe en général,
d'ailleurs. Donc c'est vraiment un grand compositeur européen, on peut dire ça, oui. Donc effectivement, il a joué ce concerto de Liszt.
Le premier.
Le premier, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'entre Liszt et Bertrand Chamaillou, il y a une affinité incroyable, puisque je voudrais rappeler qu'en 2011, au cours du 32e Festival Piano Jacobin, Bertrand Chamaillou n'a pas hésité à se lancer dans l'interprétation intégrale des 3 années de pèlerinage au cours de la même journée.
Qu'il a enregistré.
Qu'il a enregistré, évidemment. Mais donner ça en concert au cours de la même journée, il a peur de rien. C'est une performance, donc, magnifique. Bon, il joue Liszt comme personne. Enfin, c'était tout à fait splendide. Et il l'a joué, il l'a abordé, ce concerto, comme une vaste rhapsodie, en quelque sorte. Hein, avec des contrastes, la virtuosité, certes, mais pas seulement. Hein, avec un grand sens de la musique. Musicalité, du phrasé et une imagination tout à fait réjouissante. Donc la subtilité des nuances n'est jamais négligée au profit de la simple virtuosité. Bon, il y a autre chose que des notes dans cette interprétation, donc c'est magnifique. Il y a des détails dans cette interprétation qui sont à souligner, comme un tri avec un diminuendo sur le tri qui est tout à fait incroyable, hein. Et puis le passage du staccato au legato, il fait ça avec un naturel qui est tout à fait incroyable. Donc les musiciens de l'orchestre et Tougan l'ont acclamé à la fin, puisqu'il n'y a pas de public, évidemment. Donc, ce sont les musiciens et le chef qui se sont chargés de lui apporter un vrai triomphe.
Voilà, il était vraiment à son affaire ce concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt, ce compositeur avec lequel il entretient un lien très fort. Autre compositeur avec qui l'orchestre et Tougan Sokiev entretiennent un lien très fort, c'est Tchaïkovski, puisqu'il y avait une seconde œuvre au programme, bien sûr, et c'était encore une cinquième symphonie. C'était le festival des cinquièmes symphonies. C'est un hasard, sans doute. Et donc, comment l'a dirigé Tougan Sokiev, là aussi, il est à son affaire, dans Tchaïkovski.
Hein. Ah, complètement. Et puis, alors, il l'a tellement dirigé. Mais j'ai l'impression qu'il a mûri son interprétation au point que ça atteint des sommets tout à fait formidables. Hein. Alors, comme toujours, hein, il façonne le son comme un sculpteur qui dompte la matière sonore. Et en particulier, les pupitres de cordes. Ça, il faut dire que l'apport de Tougan Sokiev à la qualité de l'ensemble de l'orchestre est primordial pour ce qui concerne les cordes. Jamais, je crois, je n'ai entendu les cordes jouer avec une telle intensité, donc c'était tout à fait impressionnant, avec les grands solos, hein, bien connus, étant donné la qualité des musiciens, aussi bien de la petite harmonie que des cuivres, avec un solo de cordes de Jacques Delaplanque dans l'Andante Cantabile, qui était anthologique, hein, magnifique, bouleversant. Donc, vraiment un grand moment pour ce qui est de cette interprétation de cette troisième, cinquième symphonie des Franco-Russes.
Et Dieu sait qu'elle est belle, cette cinquième symphonie de Tchaïkovski, mais nous n'allons pas nous priver du plaisir d'écouter Bertrand Chamaillou et l'Orchestre National du Capitole dans un extrait du concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt. C'était le 1er avril à l'Allograin avec Tougan Sokiev à la direction. Voici le premier mouvement, Allegro Maestoso. Thank you. Le premier mouvement, Allegro Maestoso, du concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt, interprété par Bertrand Chamaillou, accompagné par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tougan Sokiev, un extrait du concert de clôture des 3e franco-russes le 1er avril dernier à la Lograin. Il y avait une autre œuvre au programme, et non des moindres.
Eh oui, une œuvre française tout de même. Donc, Les Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen. Donc, c'est l'œuvre d'un compositeur de 22 ans. Hein, oui, ça date de 1930 et elle est qualifiée de méditation symphonique pour orchestre. Alors on connaît la foi qui s'attache,
affirmée,
le mysticisme on pourrait dire, hein, qui s'attache à Olivier Messiaen. Il n'est pas que ça d'ailleurs, il était ornithologue et puis il était affecté de synesthésie, il voyait des couleurs.
Oui, c'était un personnage étonnant.
Quand il entendait des sons, enfin, c'est vraiment un personnage incroyable. Et donc là, il a composé cette œuvre qui est liée à sa foi profonde. Donc c'est un triptyque en quelque sorte, hein, et il évoque à propos de ce triptyque l'oubli de l'homme devant le sacrifice du Christ. Et donc les trois parties qui s'enchaînent évoquent successivement l'amour de Jésus, la folie du péché et la pitié adorable du Christ. Donc vraiment, il a composé ces trois passages, ces trois mouvements, en quelque sorte, trois parties qui s'enchaînent dans un but tout à fait religieux. C'est une espèce d'extase mystique et qui a été magnifiquement jouée par la richesse des différents pupitres de l'orchestre. Hein. Donc très très beau, très très belle interprétation aussi.
C'était le 1er avril et c'est donc avec ce concert entre musiciens toulousains que nous terminons ce retour sur les Franco-Russes 2021, vivement la 4e édition, en espérant qu'elle aura lieu avec une halle au grain ouverte au public. Quelques petites secondes de pause avant de nous retrouver à l'antenne. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Un agenda qui va se réduire au seul prochain concert de l'Orchestre National du Capitole, mais nous tenions à vous l'annoncer et à vous le présenter. Il sera donné le vendredi 23 avril à 20h à la Halle au Grain et il va être transmis en direct, toujours sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'Orchestre, vous le savez maintenant. Le programme est intitulé « Nostalgie des jours heureux ». On dirait presque qu'il a été choisi en fonction de l'actualité, mais en fait, il n'en est rien, Serge. Hein. C'est en référence aux œuvres qui vont être jouées sous la direction d'un chef qu'on connaît bien, lui aussi à Toulouse.
Il s'agit du chef japonais Kazuki Yamada, qui a vraiment noué des liens très forts avec l'orchestre. Hein. Et il est également accompagné d'une violoniste lettonne, Baiba Skride, qui a déjà joué.
Oui, qu'on a déjà entendu à Toulouse.
Oui, oui. Hein. Notamment, j'ai le souvenir d'une magnifique interprétation du concerto de Sibelius qu'elle avait donné.
Magnifique violoniste.
C'était vraiment très, très beau. Donc, on est très content de la retrouver, d'autant plus que c'est dans un concerto qui n'est pas si courant dans les programmes de concert, qui est un concerto pour violon, donc d'Erich Wolfgang Korngold, qui est très connu comme étant compositeur
de musique de film à Hollywood.
Hollywood, puisqu'il s'est réfugié aux États-Unis pour fuir le nazisme en quelque sorte, et donc il a surtout composé un nombre incroyable de musiques de films extrêmement célèbres. Et donc, en fait, dans ce concerto, il utilise ses compositions cinématographiques pour en faire les thèmes des trois mouvements qui composent le concerto. Il y a, dans le premier mouvement, il y a Another Dawn, appelé La Tornade en français, et Juarez, qui est un film qui date de 1939. Les deux thèmes sont conjugués dans le premier mouvement, et puis Anthony Adverse pour le second, autre film, et quant au final, le final, il se base sur des thèmes qui sont issus d'un fameux film, peut-être le plus connu, Le Prince et le Pauvre, un film de 1937. Alors, c'est amusant parce que Korngold aimait à dire que ce concerto est écrit pour un Caruso du violon plutôt que pour un Paganini. Donc, ça donne un peu...
Il faut que ça chante.
Voilà, il faut que ça chante, exactement. Mais je ne doute pas que Baba Skride doit beaucoup chanter.
Alors, effectivement, c'est un concerto pas très souvent donné en concert, qui est peut-être pas très connu du grand public, mais qui est très, très apprécié des violonistes.
Absolument. C'est un concerto très riche, avec des thèmes magnifiques, avec des couleurs d'orchestre tout à fait intéressantes. Donc, c'est vraiment un grand concerto. On est très heureux. Et un concerto qui a été créé quand même en 1947 par Yasha Eifetz, donc grand virtuose de cette époque.
Et on est très heureux qu'il soit joué par Baiba Skride. Je ne sais pas si on prononce Skride, Skride, elle est lettonne. Hein. Bon, s'il y a des lettons qui nous écoutent, ils nous le préciseront. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que c'est une excellente violoniste. Oui. La preuve avec cet extrait du concerto pour violon de Korngold, où elle joue le tout début du premier mouvement Moderato Nobile.
Thank you.
le début du concerto pour violon de Korngold avec ce très beau premier mouvement moderato nobile interprété par Baiba Skride, qui va donc jouer cette œuvre vendredi 23 avril avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Kazuki Yamada. Au programme également, Serge, deux œuvres françaises qu'on a pu entendre assez souvent à la Lohengrin à l'époque de Michel Plasson, mais moins depuis quelques années tout de même.
Et oui, sont les Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré. Donc c'est une très belle partition, quatre tableaux, et qui est tiré d'une musique de scène qu'il avait composée en 1919 pour un divertissement inspiré des personnages de la Commedia dell'arte. Alors ça donne un peu la tonalité de l'œuvre, hein, pleine de fantaisie, de grâce, de légèreté. Donc une œuvre vraiment magnifique qu'on est très content de retrouver. Donc,
une suite en quatre tableaux. Quatre tableaux, ouverture, menuet, pastoral et gavotte. Je l'ai dans le désordre, mais c'est ça.
Voilà, oui. Donc une œuvre très intéressante d'un grand compositeur, très cher aux régionaux, puisqu'il est natif de Pamiers.
Il est de Pamiers. Alors, autre compositeur qu'on aime bien dans la région, c'est Francis Poulenc, puisque lui, il est lié à Rocamadour, où je sais qu'on nous écoute, là-bas dans le Lot. Et là, c'est l'œuvre qui va être jouée de lui, c'est pas non plus une de ses œuvres les plus connues et les plus jouées, c'est la Sinfonietta.
Sinfonietta, ben c'est l'unique symphonie qu'il ait composée, et donc elle a été composée en 1947. Alors, dans un esprit tout à fait néoclassique, hein. Et c'est, d'après ce qu'il disait, un hommage discret aux symphonies de Haydn. Donc il y a là aussi cet esprit de grâce et de légèreté. Donc les deux œuvres vont très bien ensemble.
Un dernier extrait dans cette émission, il va nous donner l'occasion d'entendre l'Orchestre National du Capitole, à l'époque où il était dirigé par Michel Plasson. Michel Plasson, ça vous le savez mieux que personne, Serge, qui était un grand amoureux et un grand défenseur de la musique française. En 1982, il avait enregistré un disque Fauré avec l'Orchestre du Capitole, où l'on trouvait, entre autres, la suite Masques et Bergamasques, dont voici la première pièce, l'ouverture. Thank you. L'ouverture de Masques et Bergamasques, la suite pour orchestre de Gabriel Fauré dans la version enregistrée en 1982 par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Alors Masques et Bergamasques, Serge, voilà encore un titre de circonstance.
Ah oui, oui.
Si
oui,
on se réfère à la période que nous vivons et que nous traversons.
Eh oui, mais c'est le beau côté des masques, hein, donc en quelque sorte.
Oui,
donc,
heureusement, il y a des masques parfois qu'on est heureux de porter. Voilà, et donc là, c'était la version dirigée par Michel Plasson, mais c'est donc Kazuki Yamada qui va la diriger vendredi 23 avril à l'Allograin lors d'un concert qui commencera à 20h et au cours duquel sera également joué la Sinfonietta de Francis Poulenc et le concerto pour violon de Korngold. C'est la violoniste lettonne Baiba Skride qui œuvrera en tant que soliste à cette occasion. Ce concert sera retransmis en direct sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'Orchestre National du Capitole. Sachez d'autre part que plusieurs concerts des Franco-Russes, ceux dont nous avons parlé lors de la première partie de ce numéro, sont toujours disponibles en accès libre sur cette même page Facebook et cette même chaîne YouTube de l'orchestre. Vous pouvez donc les revoir, les réentendre quand vous voulez. Tous mes remerciements à Serge Chosy de m'avoir grandement aidé, comme il en a l'habitude, à animer cette émission et d'y avoir apporté ses précieux éclairages. Merci également à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, bon week-end et excellente semaine à tous.